Vous écoutez L'Autre Monde et nous sommes avec Zara pour parler du nouvel album du groupe Himmingbjørg. Bonjour.
Bonjour à tous.
Un nouvel album qui sort au début du mois de septembre chez Adipocer.
Tout à fait, de retour avec Adipocer qui reprend de l'activité de production.
Un album qui, moi, me rappelle un peu des souvenirs, qui sonne très années 90, on va dire, au niveau du son. Quelque chose de très authentique, très brut. On a vraiment l'impression d'être... On va dire à côté des instruments quand on écoute l'album.
Bah tout à fait, bah ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce dont j'avais envie, tout comme Chaos, le batteur. J'avais vraiment besoin de retrouver, c'est exactement ça, une proximité de son avec vraiment la précision de ce qui sort de l'enceinte sans que ce soit modifié et nettoyé par des logiciels pour rendre des choses bien trop parfaites à mon goût.
Ça s'est passé comment au niveau enregistrement? Il y a eu une configuration un petit peu particulière par rapport aux productions précédentes du groupe, je veux dire.
C'est une très bonne question. En fait, chaque album est différent. Alors celui-ci, je l'ai démarré en fait sans contacter aucun label parce qu'il n'y avait vraiment rien qui me stimulait à ce niveau-là. Et j'ai enregistré ça donc un placard à balai de 1m60 sur 2m30 en bas de chez moi, assis sur une vieille enceinte avec mon ampli guitare à 1m50. J'avais les pieds contre l'enceinte quasiment. Donc ça s'est fait dans quelque chose de totalement minuscule avec les conditions de départ qu'on avait il y a 28 ans de ça, c'est-à-dire on pose le micro, on cherche, on explore, voilà, sauf la batterie qui était très, très joliment enregistré dans un studio La Forge, avec qui on travaille habituellement.
Ce côté un peu brut, c'est vraiment par hasard ou c'est une recherche, façon de parler musicale? Chaque groupe a toujours son évolution, mais tu voulais vraiment revenir à quelque chose de très authentique. C'est peut-être pas le terme le plus juste, mais le plus comment dire, sans fioritures.
Bah, si, moi je trouve que ton terme authentique convient parfaitement. Parce que, à mon sens, moi je trouve que ce qui est devenu le milieu métal, dit extrême par rapport à une réalité commune qui est bien plus modérée, donc toute une histoire de point de vue, je trouve qu'avec les années, c'est vraiment devenu une farce, avec des gens qui se déguisent pour monter sur scène, avec des gens qui disent qu'ils sont très très en colère, mais avec des musiques super léchées, où tout est tout petit défaut, chaque défaut est gommé, qui sont sataniques, mais en même temps, et qui sont le mal, c'est très très sombre, mais il n'y a rien qui incarne ça dans leur manière de faire les choses, qui sont c'est très organisé, très calculé. La fureur n'est pas quelque chose de calculé, ni de parfaitement millimétré. Je veux dire que c'est devenu presque une parodie de ce qu'était cette musique-là à la base dans les années 90. Et moi, j'avais vraiment plus envie de ça parce qu'on a l'impression que, enfin, moi personnellement, je l'ai, que même la vie globalement aujourd'hui est une farce. On nous fait croire des choses, on nous fait adhérer à une vision, une perception de la vie et des choses qui est unique et à laquelle il ne faut pas déroger. Et ben moi, j'y déroge parce que j'avais toujours dérogé ce qu'on essayait de m'imposer de manière injuste, parce que je trouve que c'est injuste, que les choses ne sont pas... pas juste dans ce qu'on nous dit de penser et de faire. Donc j'avais vraiment besoin de retrouver la vraie nature de la colère et du métal.
Ce qu'on retrouve, façon de parler, de façon peut-être un peu large, sur justement l'album avec The Fall of Valhalla, est-ce que ça renvoie après au niveau légende, mythologie, etc.?
Il y a très très peu de références à la légende, si ce n'est le titre de cet album. Donc ce qui est très amusant. J'ai aussi pris le contre-pied des centaines de disques qui sortent depuis des années, où il s'agit d'une surenchère de références mythologiques, à mon avis totalement vide de sens, parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'intérêt, enfin, c'est devenu du musical, voilà, c'est bien triste, mais c'est mon constat. Donc je me suis amusé un peu avec ça, et pourtant je trouve que la chute du Valhalla s'incarne parfaitement aujourd'hui dans la déstructuration de l'humanité et du monde, et de notre vie, l'inversion des valeurs, la perte des connaissances traditionnelles, la fin des peuples traditionnels tels qu'ils ont existé en tant que peuple, leur environnement, leurs connaissances spirituelles. Je pense qu'on est vraiment dans la chute du Valhalla, et pour autant, il n'y a aucune autre référence à la mythologie germanique dans les textes, puisqu'ils sont très très incarnés dans ce que l'on vit au quotidien, dans cette noirceur qui pèse sur notre vie et sur nos pensées en permanence. C'est très très incarné. C'est un contre-pied justement à tout ce qui se fait depuis ces dernières années.
Ce que je voulais dire par là, c'est que je trouvais que le titre justement de The Fall of Valhalla, avec justement la référence historique, se retrouvait après décliné dans chaque chanson, façon de parler, mais avec un regard très contemporain. Quand tu parlais de colère, un titre comme The Fury Talk, par exemple, ou le côté authentique dans The Color of Truth, il y a des résonances, on va dire.
Bah, totalement, je pense que ce qui s'exprime, c'est pas uniquement cet album-là. Ce qui me semble le plus important dans l'existence, si on veut que ça aille à peu près bien, et c'est pas trop le cas en ce moment, c'est d'être authentique, suffisamment humble pour voir les qualités et nos limites, et puis essayer de s'améliorer pour que l'ensemble s'améliore. Ça demande du courage, de la clarté d'esprit, de la vaillance, du respect. Et c'est ce qu'on retrouve. Je pense dans la musique d'Ingeborg depuis bien longtemps.
Les collaborations sur cet album-là, comment ça s'est passé justement? Parce que si toi, tu as enregistré de ton côté les différents intervenants, tu les as rajoutés de quelle façon?
C'est très simple. J'ai enregistré tous les instruments à part la batterie. C'est Chaos qui a fait un magnifique enregistrement. Alors c'est pareil, deux prises par morceau. Hein. On n'a pas fait du copier-coller avec la souris au kilomètre. Il a fait deux prises par morceau. Voilà. En un jour et demi avec l'installation, c'était terminé. Donc on a fait un vrai album. Alors pour les participations extérieures, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est retrouvé en cours d'enregistrement sans guitariste soliste parce qu'il a disparu dans les brumes. Et moi, je ne suis pas du tout soliste rapide. Je fais des jolis leads, je fais des solos mélodiques, mais alors j'ai pas du tout de main gauche. Moi, j'ai qu'une seule main. Et donc j'ai téléphoné et j'ai emmerdé tous mes copains musiciens pour leur dire voilà, il me faut un solo sur ce morceau parce que vraiment je suis coincé, je sais vraiment pas. Voilà. Donc évidemment, ils ont répondu présent. Ils sont formidables. Ils arrivent à me supporter en plus avec les années. Et donc ça s'est fait comme ça, ils ont enregistré chez eux, je les guide au maximum, parce que généralement j'ai quand même toujours une idée du résultat, même si j'ai pas le solo, je sais comment ça doit sonner, donc je les torture un peu, mais ils aiment ça, et puis ils m'envoient les pistes et je vois ce que je garde dans chaque version de morceau.
D'accord, une question peut-être un petit peu curieuse, mais pourquoi Sven Vigna sur My Last Journey? Pourquoi Ludovic Tourné sur Brother Sequel, Architect of Annihilation et Tribeless Child? Pourquoi Baptiste Labène sur The Fury Talk et Sylvain Ostengo sur The Color of Truth, ainsi que Louis Nas sur Architect of Annihilation sur le solo 2?
Eh bien, parce que c'était eux qu'il fallait. Réponse extrêmement simple.
Non, mais je veux dire, pourquoi Sven Vigna sur Malage Journée et pas justement sur Tribeless Child? Comment tu t'es fait, toi, l'idée? C'est parce que tu avais, comme tu nous disais, le son déjà en tête et tu t'es dit, tiens, ça pourrait coller comme ça ou...
Je les connais, c'est des êtres que je connais depuis fort longtemps. Je sais ce que j'aime chez eux, je sais ce que j'admire chez eux et je me dis, tiens, ça, c'est pour lui. Okay. Et généralement, je ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il y arrive.
Ah oui.
Quand je le sens, en fait, c'est comme la composition des morceaux. Je cherche pas à composer, je fais pas de l'architecture musicale. Si c'est là, je le sens et ça sort. Et je, comme un sculpteur sur terre, en fait, sur de l'argile, la forme est déjà à l'intérieur et c'est à moi de dégager tout ce qui est autour. Moi, c'est comme ça que je vis la chose et c'est comme ça que ça se passe, en fait.
On pourrait dire une espèce de vision musicale avec la création après qui permet aussi ça, d'avoir un cheminement.
Une sensation de déjà avoir une gestation, des voix. J'ai déjà la chose en moi et je prends la guitare et ça sort et je me dis ah ouais ça oui ça comme ça ça, mais c'est déjà là en fait, j'ai pas l'impression de composer, c'est quelque chose qui sort et qui est... J'ai même pas vraiment finalement beaucoup de mérite si ce n'est d'avoir le courage et la conscience d'y consacrer du temps et du travail, comme si c'était pas moi qui composais, c'est là, ça vient, ça traverse, ça passe par moi, mais pas vraiment ma propriété, pas vraiment une création. C'est vraiment cette expérience-là que j'ai de la musique, moi.
Et est-ce que tu arrives, façon de parler, à être encore un peu surpris du résultat final?
Ah bah là, complètement. Hein. Je pensais même pas qu'il y aurait un album après Weird. Moi, je n'y pensais même pas spécialement. Ça s'est fait à un moment où j'ai senti que c'était le moment. J'ai pris la guitare et c'est sorti et c'était le moment. Donc ça s'est enchaîné. J'ai passé deux après-midi maximum sur chaque morceau, hormis les arrangements que j'ai fait au moment de l'enregistrement de l'album. Et je suis très très surpris. Ouais. Il y a des morceaux comme My Last Journey. Je ne m'attendais absolument pas à des orchestrations pareilles. J'ai mis les mains sur le clavier. C'est les sons qui m'inspirent aussi. J'ai un clavier, j'ai des sons. Et les sons m'inspirent et ça part. Et à la fin de Color of Truth, ben c'est pareil. Je n'aurais jamais imaginé un final aussi grandiose. Et vraiment, voilà, je suis le premier surpris. Et ça, c'est... Ça, c'est vraiment mon bonheur.
Pour parler du chant, il y a eu un travail aussi de traduction avec aussi des invités. Je parle notamment de Heather Lloyd Davis et il y a aussi un autre invité, Christophe Pion. Le fait de chanter majoritairement en anglais et aussi avec des passages en français, pareil, c'est parce que tu entends différentes sonorités avant que ça sorte ou comment ça se fait ce mélange?
Exactement. C'est exactement ça. Dans le premier morceau, Brother Sequan, il y a quelques lignes parlées en français, parce qu'à ce moment-là, je trouve que c'est fabuleux. Je le percevais comme ça. Oui. Christophe de Sphere, avec qui j'avais collaboré il y a très longtemps, au sein d'un projet électro-goth, c'est pareil. Je connais la personne, je connais sa vibration intérieure. Je savais que sa voix, ce serait fabuleux, surtout pour narrer le texte en question, qui est très spirituel. Et Isère, eh ben c'est fabuleux. Sur ce morceau-là, on travaillait à distance par écrit. Je lui ai dit, écoute, Isère, tu veux pas faire un essai voix? Et quand j'ai entendu le son de sa voix, je me suis dit, mais c'est parfait. Une douceur, une passion dans sa voix. Donc, bah, merci Isère. Voilà, je l'embrasse et Christophe aussi. C'était très très beau. Le résultat est fabuleux.
Le côté spirituel de cet album-là, plus largement sur le groupe, c'est quelque chose dont tu veux parler plus particulièrement?
Bah, je pense que l'essence même de ce que je fais, mais pas seulement que dans cette activité musicale avec Min Björk, c'est l'essence, c'est le centre d'intérêt, c'est de mon existence. Pour moi, l'existence est une étude, c'est une exploration, c'est mon carburant, c'est ça.
Ton espoir secret, façon de parler, quand les gens entendront cet album The Fall of Valhalla, t'aimerais qu'il soit dans quel état d'esprit après?
Eh bien, c'est plus un espoir secret, même si effectivement on a une attente. Bah, il y a une chronique qui vient de sortir sur Art Force, écrite par Aude Paco. Et bah, je l'ai mise en ligne et je lui dis et j'ai dit aux gens, eh bien voilà, quand on lit une chronique avec des mots aussi justes posés sur ce qu'on a créé, bah voilà, ça y est, le travail est accompli. C'est la chose la plus importante, que la communication, l'énergie, ce que j'ai mis en lumière soit perçu, compris, sans erreur d'interprétation, vécu, ressenti, vibré. C'est une totale réussite pour moi. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus de bonheur.
Un mot sur la pochette de l'album. Comment est-ce que t'as fait ce choix d'artwork?
Eh bien, c'est très simple, c'est plutôt un choix de personne, en fait, parce qu'il s'agit de David Thieret, qui est à mon sens l'artiste le plus élevé dans sa discipline que je connaisse réellement en tant que personne. Voilà, c'est son univers, sa précision, son acharnement vers la perfection, j'ai rarement vu un artiste aussi haut. Le seul équivalent que j'ai pu voir, c'était le batteur de M'Gla. J'avais passé un concert assis à côté de lui, et je me suis dit, c'est un maître. Et David Thieret est un maître. Il y a peu de maîtres sur cette planète réellement. David est maître dans sa discipline. Et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire. C'est un grand ronchon et je l'adore.
Il avait quelques consignes avant la création ou est-ce qu'il a eu un peu carte blanche?
Oh, ça tenait en trois mots. Si je me souviens bien, lui dit tri, le
Ok.
peuple, la culture, la terre. C'est tout ce que je lui ai donné comme point de départ.
Ok, on se retrouve avec ce visuel-là.
Voilà, et après on reçoit ceci, effectivement, en résultat.
Ok. J'ai vu qu'il y avait eu une tournée en Amérique du Sud et que ça t'avait touché, ce voyage-là. L'album a été enregistré, bien sûr, avant. Le voyage, mais est-ce que ça te donne des nouvelles idées pour pas la suite, parce que c'est encore trop tôt, l'album n'est pas encore sorti, mais en quoi est-ce que ça constitue une marge de plus dans ta vie de musicien?
Bah, l'album était encore en cours d'enregistrement parce que je l'ai vraiment terminé à bout de force. Donc, puisque je l'ai mixé, ça c'était vraiment la partie extrêmement difficile. Ben, en fait, cette expérience du Brésil était assez extraordinaire parce que je m'éloigne quand même rarement de chez moi, surtout aussi loin. Malheureusement, ça n'a pas été une surprise, ça n'a fait que renforcer la frayeur que je peux avoir quand je regarde certains aspects de l'humanité et de l'état dans lequel nous sommes. Parce que alors là-bas, au niveau social, au niveau humain, ils sont au bout du quai, hein, si je puis dire. C'est pas. Alors on peut y aller et faire les coins carte postale, vous voyez, y a pas de problème. Il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Ils vivent au-dessus. qui sont au-dessus du niveau des nuages. Donc ça, c'est un truc très très idiot que j'ai compris en prenant l'avion régulièrement quand j'habitais en Bretagne. C'est qu'au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Pas de problème. Donc tout dépend où tu te situes. Sauf que là, on est vraiment en dessous des nuages et c'est le chaos, quoi. Et dans la voiture, quand on voulait, parce qu'on a fait pas mal de routes, on a ressorti Chaos Sighted, Sepultura, et y en a un d'entre nous qui a dit, putain, j'ai envie de chialer, quoi. Mais il faut voir le niveau de misère, de violence, de folie de l'humanité à cet endroit-là. Des enfants, des gens qui meurent, qui crèvent de partout, tu peux te faire planter à tout moment, pour rien, tu te fais découper ou attaquer, enfin je veux dire, là-bas, t'es pas en mode bisounours, quoi. Et tu te dis, mais c'est irrécupérable. Les gens survivent là-dedans. Tu as une élite qui est dans les affaires, qui gagne du pognon, extrêmement minoritaire. Les autres, c'est la loi de la jungle. Hein. Et les gens, tu les enjambes quand tu es sur le trottoir, hein, à Sao Paulo. Hein. Et tu fais gaffe en plus à ce qu'ils ne te mettent pas un coup de couteau, qu'ils ne te mordent pas le mollet. Tu vois, c'est simple, il n'y a pas un immeuble sans vidéosurveillance, sans gardien 24 heures sur 24, sans fil barbelé au mur de 2 mètres de haut avec des lames de rasoir au-dessus. Hein. Faut savoir, on est dans un quartier de Sao Paulo où les gens crèvent sur le trottoir et à l'intérieur, c'est le paradis, quoi. Et ces gens ne se côtoient pas, où ils s'enjambent, ils se méfient, et c'est une sacrée expérience. Ouais. Donc, ça n'a pas changé ma vision du monde. Je vois bien qu'on va vers ça. Enfin, ceux qui n'ont pas compris sont vraiment idiots, en tous les cas. On va vers ça à une manière un peu plus lente, bien que là, les choses s'accélèrent à coups d'accélérateur là, ces dernières années. On a bien rigolé quand même depuis 2018, hein, je trouve. Voilà, c'est un nouveau monde qui se structure. On va se retrouver comme au Moyen-Âge, avec une hyperclasse qui vivra au-dessus dans les nuages. Et puis nous en bas. Voilà. Et puis si, parce que c'est ce que je fais depuis des années, si tu décris tout cela et que tu l'annonces comme je le fais depuis des années, on te met de côté. Ou alors on t'envoie en soins. On va t'envoyer en soins. Ou en centre de reconditionnement citoyen. Vois-tu? Parce que le problème, ça va être toi. Parce que ce que tu dis ne convient pas au système qui est en train de s'asseoir sur le trône. Je veux dire, on est en phase terminale. C'est ce dont je parle depuis quasiment 20 ans dans une bière.
Comment dire,
On joue ça pour le moral, hein, mais bon,
Non, mais
c'est fait aussi un peu pour ça.
après, malheureusement, enfin, alors t'es pas le premier à dire ça, mais ouvrir les yeux, il y en a certains, d'un coup, quand ils voient la lumière, ça les brûle, quoi. Et il y en a qui préfèrent vivre cachés, quoi.
Ah, il y en a qui vont avoir mal, hein. Bah, ils souffrent déjà, mais à coup de championnat de football, de Jeux Olympiques, de drogue, de whisky, de nouvelles drogues que je ne connais même pas, d'ivresse, qu'elle soit de travail, ou sexuelle ou de ce qu'on veut, on trouve des palliatifs. On se crée des équilibres pour tenir le coup, mais les gens vont très mal. Même en France, hein, les gens vont très très mal. Que ce soit au boulot ou ailleurs, et comme ils sont traités, ce qu'on leur demande de faire, en dépit du bon sens et même à contrario, mais les gens sont dans un état de souffrance incroyable. Et tu tiens jusqu'à ce que tu tiennes. Aujourd'hui, je crois que je ne connais pas quelqu'un autour de moi qui n'ait pas fait un burn-out, dans quelque domaine que ce soit. Et on n'arrive pas, et le pire, c'est qu'on ne trouve pas l'issue. C'est qu'on ne sait pas quoi faire qui pourrait changer ça. C'est pour ça qu'il y a une telle colère dans cet album, d'ailleurs, parce que faut bien que j'en fasse quelque chose aussi, même si j'arrive à prendre énormément de distance. Mais même moi, qui a une capacité de prendre de la distance et de la hauteur, je trouve que c'est de plus en plus dur pour se préserver de cette négativité. La vraie négativité, elle est là. Elle n'est pas avec des mecs qui se déguisent en sataniste, en brûlant une bougie dans un placard avant de monter sur scène et en se dessinant des pentacles. C'est ridicule. La négativité, la vraie, elle est là. Et il y a Tom Warrior de Triptychon, Celtic Frost, qui expliquait la même chose il y a quelques années. C'est pas ces mecs-là, les satanistes. Les mecs, ils sont en costard. Ils vivent dans des avions. Ils font des choses absolument abominable qu'on n'imaginerait même pas dans notre esprit, caché. Ce sont des confréries et ces mecs-là nous dirigent. Ils sont en train de nous détruire, ils sont en train de détruire la planète. Voilà ce que je dis.
Ça me rappelle un échange que j'ai eu avec un groupe de metal hardcore crossover qui disait que sa musique aura beau être aussi violente que possible, aussi extrême que possible, ce sera jamais aussi violent que la société qui nous entoure.
Oui, du monde qui arrive à... Voilà. À maturité, oui. C'est d'une perfidie. Et en plus, il y avait des titres comme ça, c'était un bonheur insoutenable. Ah, si tu n'adhères pas, si tu ne proclames pas que ah, nous sommes vraiment bien tous ensemble, c'est fabuleux ce qu'on vit au quotidien, bah, tu es considéré comme fou. Voilà. Tu es diabolisé, ça fait des années que ça dure, des décennies. On te trouve des appellations, tu es rejeté de la société, tu n'es plus fréquentable. tu n'es pas bien dans ta tête, voilà, on t'emprisonne aussi. Alors maintenant les condamnations tombent à tour de bras. Voilà, c'est une dictature du bonheur. Voilà, il faut adhérer. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans Architecture of Annihilation. C'est exactement les textes de ce titre-là. On est bien, il faut absolument, c'est obligatoire d'être bien. Sinon, c'est toi qui as un problème, tu vas pas bien du tout. Quelle perfidie, c'est incroyable.
Pour vous entendre en live et vous soutenir et partager un moment avec vous, vous avez votre prestation qui est annoncée déjà pour le Mency Metal Fest, 8 septembre.
Ouais. C'est la semaine prochaine. Alors, je sais pas quand tu diffuseras l'émission, mais c'est la semaine prochaine.
Donc, qui colle avec la date de sortie de l'album.
Oui. Si les colis arrivent à temps. Ben c'est pas grave, on prend le commander et puis on sera là. Et puis ceux qui veulent venir nous rencontrer, moi c'est simple, on me voit au stand. Hein. Moi, je ne suis pas dans le quartier VIP, tu vois. Je serai certainement au stand. Donc c'est le moment de rencontre. Voilà. Et ça, c'est super intéressant d'échanger cette énergie sur scène avec les gens. Et puis les gens, dans le respect, parce qu'il y a parfois des 15 bonbons, donc généralement je les vire assez vite. Voilà, dans le respect de la rencontre et de l'intérêt de faire une découverte et d'apprendre à se connaître. Ça se passe dans ce genre de moment. Ouais.
Est-ce qu'il y aura d'autres dates qui sont déjà annonçables ou c'est en projet à construire ?
C'est en projet. Voilà, il y aura effectivement d'autres dates parce que j'ai quand même l'impression qu'on était bien attendu. Mm-hmm. On a continué à faire quelques concerts quand même épars ces dernières années. Mais voilà, je ne m'imaginais pas à quel point on était attendu. Je crois que les gens avaient vraiment besoin d'un retour à ces choses-là. Donc il semble qu'on l'incarne en partie. Et y a beaucoup, j'ai reçu énormément de sympathie l'année dernière, par exemple, au Forest Fest en Suisse. Oui. J'avais des amis qui venaient me voir, je ne pouvais pas faire de mètre sans que des gens viennent me rencontrer, mais c'était parfait. Ils me remerciaient, mais moi je les remerciais aussi. Ça m'a réconforté après avoir, comment dire, ramé contre vents et marées, je l'avais écrit comme Aude Paco l'a repris très dernièrement, contre tout. Et j'en ai jamais eu rien à foutre, j'ai toujours su quelle direction je devais prendre. Et les gens sont venus, mais alors, comme un flot, pour me remercier, me serrer la main, j'ai dit, mais moi aussi, je vous remercie, vraiment. Vraiment. Mm-hmm. C'est fabuleux de partager ça. Donc, ça fait du bien. Donc, je ne me suis pas trop trompé. Ça, j'aime bien aussi. Ça agace ma femme, mais moi, j'aime bien.
C'est toujours une histoire d'échange, de toute façon.
Tout à fait. Bah, pas toujours. Il y en a qui pissent à la tête du public, qui le déconsidèrent totalement, et pour qui c'est juste une manne financière pour se payer le train de vie qu'ils ont. Et puis surtout se payer cette admiration dont ils jouissent, ce statut supérieur qui nourrit tant l'ego. Vois-tu, on a tous une manière différente de pratiquer ceci, l'activité, comment dire, publique, qu'elle soit artistique ou autre. On fait soit pour sa gueule, soit pour dire oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis fort. Ou alors c'est vraiment pour essayer de faire quelque chose d'utile. Et quand les gens viennent te le confirmer, ça fait vraiment du bien. Vraiment, beaucoup de bien.
Quelque chose de plus que tu souhaiterais nous dire à propos de ce nouvel album, avant que je passe à ma dernière question ?
Bah écoute, je crois qu'on a déjà pas mal dit. Je suis très content du résultat, mais ça a été extrêmement difficile. Enfin, surtout le mixage, pour moi, ça a été terrible. Je l'ai mixé dans une pièce minuscule, et donc il y avait des billets acoustiques. J'ai dû reprendre une grosse partie du mixage grâce à Greg Chandler en Angleterre qui a fait le mastering, Priory Record, qui me guidait à distance. Et puis, alors, j'ai toujours des anecdotes très drôles, parce qu'on est dans l'authentique, on n'est pas aussi noche là. J'ai terminé le mixage, j'ai repris le mixage en faisant les écoutes, en sortant sur le parking pour aller faire les écoutes dans ma voiture. C'est là comment s'est terminé l'album. Voilà. J'avais un tel billet acoustique, en fait, très simple à expliquer, dans ma pièce. Ça donnait un rendu avec beaucoup de basses, très belles, très propres, alors qu'en fait, il n'y en avait pas.
Ah mince.
Donc j'ai dû reprendre tout le mixage et j'ai passé le peu de jours de week-end que j'avais ou les soirées à traverser sur le parking, à aller dans ma voiture et les mix, voilà. Et en fait, je suis quand même très content des résultats, c'est vraiment ce que je cherchais et je crois que c'est pas raté.
Non, je confirme. Il y a deux singles qui sont déjà écoutables d'ailleurs, pour que les gens puissent découvrir un petit peu avant que l'album sorte, et donc ça donne déjà une bonne idée de ce que va représenter The Fall of Valhalla.
Oui, sachant que chaque morceau, comme à chaque fois, est très différent au final, il y a vraiment des surprises dedans.
Pour terminer nos interviews, tous les ans, il y a une question différente. Cette année, je te propose de changer de maison. Je te propose de partir dans la maison de la famille Maitland en référence à Beetlejuice. Tu peux choisir l'atelier du Père Noël.
Oh, c'est chargé.
La maison de la sorcière du voyage de Chihiro.
Grand Dieu.
La maison de la famille Ingalls pour la petite maison dans la prairie.
Bah, Ingalls, évidemment. D'ailleurs, sinon, ma femme a eu, en parlant de tradition, chaque année, au 31 décembre, elle souhaite la bonne année sur Facebook en postant une photo de la famille Ingalls qui fait un doigt d'honneur, enfants y compris. Oui. Voilà. Donc, évidemment, maison Ingalls.
Et quand même, par principe, je te propose sinon le palais de Scheherazade.
Oh non, ça ne me correspond pas du tout.
Donc, famille Ingalls.
Oh, bien sûr.
Un dernier mot pour conclure.
Je suis très content, ravi de ce genre de moment d'échange. Et bizarrement, je trouve que la qualité s'est vraiment améliorée avec les années et que ça semble signifier que ce que je fais est bien mieux compris et perçu aujourd'hui. Et c'est assez intéressant. Ben, merci, c'était vraiment un moment sympathique.
Merci beaucoup à toi. Et puis, ben, rendez-vous sur la route pour ceux qui te croiseront. Sinon, donc, je le rappelle, l'album sort au début du mois de septembre, The Fall of Valhalla, sur le label Adipocer.
Tout à fait. Merci à toi.